Bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin, je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman d'Alune et éducatrice Montessori. Je suis également la maman de 4 merveilleux enfants entre 13 ans et 6 mois, qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements, libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 2 de la saison 2, je vous présente Céline, maman de 3 enfants, qui vient nous parler de la naissance en structure de son aîné, puis à la maison, accompagnée de sage-femme, de ses plus jeunes enfants. Elle nous partage son cheminement, son émerveillement face à la magie qui se révèle différemment à chaque grossesse et à chaque naissance. Je vous souhaite une belle écoute. Céline, je te souhaite la bienvenue. Alors, je t'accueille aujourd'hui avec grand plaisir. On a commencé à discuter un petit peu sur...
Yes, avec joie. Merci. Je suis très en joie vraiment de passer ce moment avec toi. Je sens cette vibration commune d'inspirer les femmes au niveau du périnatal et vraiment d'accompagner les femmes dans leur quotidien à se réapproprier les naissances de leur bébé, l'arrivée du bébé, comment elles ont envie d'être mères. Et voilà, moi ça me passionne au quotidien, c'est mon travail, c'est une passion, c'est ce qui s'est révélé depuis que je suis toute petite en fait, ça a toujours été là pour moi. Et j'ai la chance d'en vivre, en accompagnant des femmes dans ce processus de la grossesse, de l'enfantement et puis du postpartum. Et voilà, je suis ravie d'être là parce que donc c'est des mamans de l'accompagnement qui m'ont parlé de toi et qui m'ont dit « Ah, ce podcast, il est super inspirant. Donc, vas-y, prends contact. » Et vraiment, c'est ce qu'on échangeait un petit peu là juste avant, c'est eh bien, au plus, on va partager nos histoires de naissance, ce qu'on peut vivre au niveau de la grossesse, de la naissance, du postpartum. Au plus, en fait, on va se rendre compte que c'est universel et que toutes, on passe par à la fois des expansions merveilleuses et à la fois des moments plus down où on va aller rencontrer des parts d'ombre ou des parts plus fragilisées, plus insécurisées. C'est ça qui est passionnant dans ce domaine-là.
Oui, complètement. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Merci à ces mamans, si elles écoutent, du coup. Ouais, c'est vraiment plaisant d'avoir ces retours. Et du coup, ça me motive d'autant plus pour reprendre là, maintenant que ma petite dernière a 6 mois, de pouvoir reprendre un peu plus activement. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de temps. On ne se rend pas forcément compte en écoutant comme ça, mais le temps de se caler une date, de savoir... De trouver un créneau pour enregistrer, de réécouter, de faire les petits coupages quand il y a besoin, tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir de se rendre compte que c'est utile. Voilà.
Oui, c'est utile. Et tu vois, moi, j'écris sur mon blog et j'ai une petite chaîne YouTube où je partage un peu des méditations ou des choses qui peuvent vraiment aider les femmes durant la grossesse et le postpartum. Et du coup, c'était inspirant aussi pour moi d'entendre que les mamans que j'accompagne, qui ont déjà du coup quand même un panel assez large de choses, elles vont encore chercher en plus d'autres femmes qui vont les inspirer. Et je me dis, waouh, pour moi, en fait, il y a vraiment comme une communauté périnatale qui est en place et que j'ai envie de soutenir, tu vois, toutes les femmes comme toi qui inspirent, qui partagent, mais c'est cadeau, quoi. Donc, unissons-nous quelque part tout ensemble pour dire, mais oui, les filles, en fait, vous avez absolument tout en vous pour enfanter comme vous le souhaitez et puis pour créer la famille comme vous la souhaitez et pas comme on vous dirait de le faire ou comme vous l'avez appris qu'on devait le faire, mais juste avec ceux qui vibrent pour vous, quoi.
Oui, bien sûr. Bon, étant donné que tu nous as présenté un petit peu toute ta partie professionnelle et que tu viens là en tant que maman pour témoigner, est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ta petite famille à toi, du coup ?
Oui, avec joie. Donc, j'ai 3 enfants. Luna, qui a 9 ans aujourd'hui, qui devient une grande, du coup. Pour elle, le passage des 9 ans, ça a vraiment été on a fait un rituel ensemble avec ses amis. Ça s'est plus ou moins improvisé, un rituel autour des 4 éléments. Et c'était génial, c'était dans notre jardin, très spontané. Mais voilà, il y a vraiment un passage à un autre âge, à ses 9 ans. Donc, je suis très contente d'être la maman de Luna. Et puis, alors, il y a Milo qui a 6 ans et Luis qui va avoir 5 ans là bientôt.
D'accord, ok.
Donc, 3 petits loulous, 3 enfants en 4 ans, on n'a pas chômé.
C'est clair, en effet.
Donc, dans le genre, si tu veux travailler et accompagner les femmes, bah, tu vas vraiment faire un grand plongeon dans l'univers familial. Ça a vraiment été des ouvertures immenses pour moi à chaque grossesse, à chaque naissance, et des compréhensions de plus en plus fines, en fait, sur ce que c'est que ce processus. On a beau l'étudier, le vivre intensément dans ses cellules, ça donne tout à fait une autre compréhension de ce qui se vit. Donc, j'étais enceinte de Luna, elle est venue assez vite, se loger dans mon ventre une fois que son papa et moi on avait décidé qu'on avait envie d'avoir un enfant, on avait ce souhait de créer notre famille. Très vite en fait j'ai senti comme un décalage vibratoire, je dirais ça comme ça aujourd'hui, peut-être à cette époque là j'avais pas tout à fait les mots, mais comme un décalage entre ce que je vivais à l'intérieur, ces ouvertures vraiment qui commençaient à se passer dans le corps, et puis ce que je pouvais vivre en rencontrant beaucoup de gens, ou dans mon travail, j'étais thérapeute salariée à l'époque. Je travaillais avec des familles précarisées, en fait. Et je sentais comme un décalage vraiment énorme entre ces ouvertures qui étaient là, qui se vivaient de plus en plus profondément intérieurement, et puis ce partage avec d'autres gens qui ne vivaient pas du tout la même réalité. Et j'ai eu cette chance, en fait, que mon corps m'arrête. Aujourd'hui, je le vois vraiment comme une chance. Je peux te dire, hein, je tiens à le dire pour toutes les femmes qui vivent cet arrêt, que quand on vit l'arrêt, on ne le vit pas vraiment comme une bénédiction.
Sur le coup, non. Il faut parfois du temps pour le voir différemment. On est d'accord. Ouais, ouais.
Et donc, mon corps m'a arrêté. Mon taux d'hémoglobine a chuté. Donc, j'étais comme à plat. Un peu, si tu veux. Prends une pile, il me restait 10% de force à peu près. Ouais. Donc, j'étais vraiment très à plat. Et à la fois, ben, ça m'a permis de me déposer dans mon divan et juste d'être en méditation avec mon bébé, en fait. Juste de découvrir cette ouverture intérieure immense, alors qui est favorisée, ça je le sais aujourd'hui, à l'époque je ne le savais pas, mais qui est favorisée en fait par l'état de grossesse, puisqu'on... Durant la grossesse, il y a l'ouverture psychique, spirituelle et l'ouverture du corps. Donc, on est dans un état de grande ouverture. Ce qui peut faire d'ailleurs qu'on sent hein, cette différence de vibration et de dire « Waouh, j'ai peut-être pas envie de vivre ce truc-là, de me retrouver dans une foire avec 2000 personnes. C'est peut-être pas le truc dont j'ai envie en ce moment. » Et donc, avec Luna, si tu veux, j'ai vraiment fait ce retour à l'intérieur. Cette découverte qu'ensemble, on allait créer quelque chose de complètement différent de ce que j'avais connu jusque-là. C'était une période très, très dense parce qu'à la fois, j'ai eu pas mal d'échos de ce que moi, j'avais vécu en étant bébé. Donc, des choses qui sont ressorties durant ma grossesse, des choses que j'ai apprises. Et donc, voilà, il y a vraiment eu tout un processus thérapeutique. Alors pas toujours très bien accompagné à l'époque parce que je pense qu'il y avait moins de personnes vraiment spécifiques qui travaillaient au niveau périnatal à l'époque. Aujourd'hui il y a une conscience plus ouverte en fait de ce que la femme peut.
J'ai l'impression que c'est aussi une histoire de réseau, c'est qu'il y avait des personnes mais on n'était pas aussi dans une période où la communication était la même aussi,
etc. Oui, tout à fait.
peut-être très local et très spécifique, quoi, comme tu dis.
Oui, c'est ça. Et en tous les cas, dans mon cas, il fallait que je fasse des kilomètres si je voulais vraiment voir quelqu'un de spécifique. On avait, moi aussi, cette possibilité de travailler sur Internet, hein, comme on l'a là, de se rencontrer. Voilà, on fonctionne autrement aujourd'hui, hein, par rapport à tout ça. Et du coup, j'avais un souhait d'accoucher dans une maison de naissance pour Luna. Et avec mon hémoglobine en berne, en gros, ma sage-femme m'a dit, écoute ma chérie, non. Il y a un risque pour toi et pour ton bébé. Et en fait, l'air de rien, cette petite phrase, elle est venue faire ricocher à l'intérieur que, ah, peut-être, je ne pourrais pas être la mère que je souhaite pour mon enfant. Alors ça, je te le raconte aujourd'hui complètement en paix. Mais il m'a fallu du temps aussi pour le décoder. Et ça, je tiens vraiment à en témoigner pour toutes les mamans, tu sais, qui vivent des choses parfois compliquées au niveau de la grossesse ou à qui on dit des choses. Souvent, il faut du temps, en fait, pour intégrer ces messages et voir quel est le cadeau derrière. Et puis, en fait, fin de grossesse, ben, j'étais en pleine forme. Donc, mon taux d'hémoglobine avait bien remonté et tout allait bien. Donc... ma sage-femme a préféré qu'on aille quand même à l'hôpital. J'étais finalement en paix avec ça, puisqu'on m'avait fait un peu peur sur ce qui pourrait se passer. J'étais en paix avec ça. Alors, moi, je ne suis pas du tout coutumière des hôpitaux. C'est pas, voilà, j'ai jamais été trop malade, j'ai jamais eu trop d'expérience hospitalière. Et donc, j'avais pas cet élan d'aller à l'hôpital, d'autant plus que j'ai un petit frère qui est décédé et qui est décédé dans un hôpital, et donc il y avait une connotation qui était là, en fait, hein, au niveau de la mort dans l'hôpital et ce genre de choses. Mais bon, on est allé vers cet accouchement hospitalier, et en fait j'ai vécu ce travail, mais vraiment en pure connexion avec mon bébé, dans une ouverture merveilleuse, et à la fois le travail ne se mettait pas tout à fait en place. Et donc, tu sais, hein, comment ça se passe à l'hôpital, les protocoles, la poche des os qui est percée, donc madame, ça fait X heures, là maintenant, on va devoir passer à l'étape supérieure, blablabla, blablabla. Et ma sage-femme qui est donc venue à l'hôpital, sage-femme indépendante, qui à un moment m'a dit, mais là j'ai un peu peur que tu ne puisses pas aller jusqu'au bout de cet accouchement et surtout que tu aies une trop grosse perte de sang et que tu ne sois pas capable de t'occuper de ton bébé. Et à nouveau, ça, à l'intérieur, ça a résonné très, très difficilement.
C'est une prédiction qui doit être vraiment pesante, hein, dans un moment de fragilité comme celui-là.
Oui. Mais aujourd'hui, tu vois, je le vois avec bonheur, en fait, parce qu'elle m'a offert un cadeau énorme, qui était de vivre cette naissance-là, de cette manière-là, pour pouvoir vivre autre chose après. Tu vois ? Et donc, en fait, il y a eu une petite discussion entre ma sage-femme indépendante et la sage-femme de l'hôpital. Et elles sont sorties de la pièce d'accouchement parce qu'elles n'étaient pas tout à fait d'accord. Et à ce moment-là, j'ai regardé mon compagnon, je ne sais même plus les heures de travail, mais je pense qu'on était au bout de 24 heures, quelque chose comme ça, entre le tout début des contractions et puis ce moment-là. Et je lui ai dit, en fait, je crois que je vais demander la péridurale. Si ça me permet d'être plus disposée à pouvoir accueillir notre petite, eh bien, allons-y. Donc voilà, j'ai demandé cette péridurale. Et alors ? Et là, j'ai vraiment envie de venir vraiment à un vécu très personnel de la péridurale, et non pas à quelque chose de global, parce que la péridurale peut aider énormément de femmes à vivre le processus de la naissance. Mais pour moi, ça a été horrible d'avoir été en pure connexion avec mon bébé. C'était comme si on me coupait des sensations, et on me coupait de cette connexion profonde, parce que j'avais pas conscience à cette époque-là que même en sentant moins, je pouvais tout à fait être en connexion. Ça, je tiens bien à le dire à toutes les femmes, si vous êtes endormie ou quoi que ce soit, en fait, vous pouvez tout à fait vivre la connexion avec votre bébé de manière intense aussi. C'est juste qu'à l'époque, je n'avais pas les outils pour. Et donc, ça m'a assez désespérée, cette histoire de péridurale.
Je comprends.
Et puis, finalement, voilà, ma fille est sortie. Et dans le protocole hospitalier de cet hôpital à cette époque-là, ils prenaient le bébé pour faire les premiers soins. Et donc, je n'ai pas eu ce moment direct de connexion entre maman-bébé. Et je me souviens avoir demandé à ma sage-femme, mais comment est-ce qu'elle est ? Et aujourd'hui, tu vois, ça me semble un peu comme une aberration, en fait, que quand ton bébé sort, tu ne sois pas la première en disant « Waouh, merveille, t'es là ! Waouh, merci d'être là !» Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai une autre vision de la naissance qu'à l'époque, évidemment. Quoi. Et donc, Luna est arrivée et très vite, en fait, je me suis sentie vraiment maman. J'ai eu... C'était une évidence, en fait. Et quoi que j'ai vécu durant cet accouchement, c'était évident d'être avec elle, c'était évident de partager avec elle, c'était évident de l'allaiter, enfin voilà, c'était vraiment assez évident. Maintenant, ma petite loulou, en début de vie, eh bien, elle a beaucoup, beaucoup pleuré. Et en fait, elle a beaucoup, beaucoup raconté cette histoire de naissance. Dans un contexte où moi, je vivais quelque chose de difficile dans mon salarié, donc mon activité salariée. Et donc, j'étais pas mal agitée. Et donc, à la fois, ma fille racontait sa naissance et à la fois, elle m'aidait à transmuter en fait toutes ces énergies lourdes qui étaient drainées par ces difficultés dans mon boulot. Et donc, en fait, toutes ces difficultés de boulot, elles ont été aussi une bénédiction pour pouvoir arrêter ça et me consacrer à ce qui m'appelait vraiment, à savoir d'accompagner les femmes dans cette période périnatale et d'accompagner les gens à revoir leur début de vie, en fait, à vraiment re-rencontrer toutes ces traces de début de vie. Donc voilà, ça, c'est l'histoire avec Luna et son début de vie, sa naissance. Yes. Tu sais, avant de tomber enceinte de Luna, moi, je m'étais inscrite à une formation en autonomie. Et le dernier week-end de la formation devait se passer quand elle aurait 3 semaines de vie. D'accord. Et en fait, je me suis désinscrite parce que j'ai senti que vraiment, d'abord, je devais vivre la naissance, la grossesse dans mes tripes à moi. Et en dehors de tout concept, en dehors de toute expérience d'autre, mais vraiment de m'approprier cette expérience. Et du coup, une fois qu'elle était née, je me suis réinscrite en préparation affective à la naissance vraiment aller un pas plus loin, en fait, par rapport à cette naissance-là, mais aussi à tout ce qu'on peut vivre.
C'est marrant que tu évoques ça parce que c'est un débat qui revient régulièrement, de savoir si pour être une bonne accompagnante, on a besoin de l'avoir vécu ou pas. Et clairement, c'est tellement personnel. Il y a des femmes qui sont merveilleuses dans ce qu'elles offrent dans leur accompagnement sans avoir été maman avant. Et tu as des personnes pour qui c'est important d'être passée par là, de l'avoir vécu pour pouvoir après transmettre.
Oui, tout à fait. Ça, je tiens à le dire aussi à toutes celles qui ont envie de se lancer. C'est pas le fait d'avoir un enfant qui donne une légitimité. C'est juste une expérience, en fait.
Complètement, oui.
Et certaines femmes d'ailleurs qui transmettent et qui sont encore traumatisées par leurs expériences, eh bien, dans l'accompagnement, c'est pas toujours génial.
Complètement, c'est vraiment un positionnement. Et moi, c'est quelque chose qui revient régulièrement, tu sais, avec des amis, quand on est en train d'échanger autour de leur grossesse, de leur bébé à venir, de leur jeune enfant, on dit, ok, est-ce que tu veux la réponse de la copine ou est-ce que tu veux la réponse de la doula ? Ce qui ne sera pas forcément la même chose. C'est vraiment important de dire voilà, que c'est notre expérience, elle va donner une sensibilité, une couleur à nos accompagnements, mais ça ne doit pas ressurgir, on va dire, prendre trop de place.
Oui. Nos expériences personnelles, en fait, elles restent comme une trame de fond qui, à mon sens, en tous les cas aujourd'hui, peut être partagée quand c'est au service de la femme. Et en fait, il y a plein de fois où c'est pas du tout au service de la femme.
Oui, c'est ça.
Du coup, c'est vraiment d'écouter sa guidance intérieure de « Ok, là, en fait, il y a quelque chose qui peut lui être partagé et qui va être chouette pour elle. » Ou là, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Je ne vais pas lui parler de moi, ça n'a aucun intérêt.
Complètement. C'est une petite parenthèse qui, je pense, est importante aussi, quoi.
Ouais.
Et du coup,
c'est intéressant qu'on dise ça parce que, en fait, moi, tu vois, j'ai jamais raconté mes histoires de naissance de manière publique. Tu vois, du coup, c'est un peu ça qui se joue aujourd'hui entre nous, c'est que quelque part, je rends public quelque chose, alors public, peu importe le nombre de personnes qui vont l'écouter, mais je rends public quelque chose d'intime, qui jusque-là, ben, je l'ai gardé parce que je voyais pas l'intérêt vraiment de le partager. Et aujourd'hui, en fait, je vois complètement cet intérêt.
Et c'est pas si simple, en fait, parce que mine de rien, émotionnellement, ça implique quelque chose, ces partages, c'est se livrer, c'est pas toujours facile et c'est un vrai, je pense, un vrai cadeau, pas toujours évident.
Oui. Je suis contente de le faire avec toi en tous les cas.
Yes. Bon, alors j'ai hâte que tu me racontes maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche en disant alors attends, au départ, je l'ai vécu comme un cadeau, je l'ai pas très bien vécu, mais avec du recul, je savais pourquoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour ton deuxième du coup?
Alors, je vais parler un tout petit peu de contraception, tiens, parce que c'est un sujet qui est aussi dans le thème.
Oui, bien sûr.
Je mettais des anneaux vaginaux qu'on plie là et puis qu'on insère en fait dans le col de l'utérus. Et donc, je mettais ça et puis je participais à des cercles de femmes, des tentes rouges, tout ça. Et puis un jour en méditation, en fait, c'est vraiment venu me dire, mais là, il faut arrêter tout ça. Il n'y a plus d'hormones qui est possible.
D'accord.
Ok, donc je l'ai partagé à mon compagnon en lui disant, bon, bah, écoute, voilà, on laisse ouvert et en même temps, bah, si un deuxième enfant arrive, il me semble qu'on est prêt à pouvoir l'accueillir. Et lui, il était tout à fait d'accord avec ça. Et on a exploré un peu cette sexualité, du coup, sans protection.
Okay.
Et puis... Milo est venu se loger au creux de mon ventre. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec Luna, quand elle avait 9 mois, déjà durant la grossesse, moi j'avais pas mal de visions, de messages, je recevais déjà beaucoup de choses, sauf que je ne faisais pas tout à fait confiance dans ce que je recevais. Et puis, quand Luna avait 9 mois, j'ai appris ce qu'on appelle la communication connectée, donc il y a un type de communication intuitive avec les bébés. Et quand on m'a mis les baguettes dans les mains, en fait, donc les baguettes de sourcier, je me suis rendu compte que c'était des confirmations énormes de tout ce que j'avais déjà ressenti. Donc en fait, du jour au lendemain, avec ces baguettes en main, j'ai eu accès à un panel d'informations, de présence, enfin voilà, c'était vraiment une ouverture au subtil très très large. Qui était déjà là, mais les baguettes me permettaient de confirmer tout ce que je sentais.
D'accord, excellent.
Donc, merci. Merci à Charlotte qui m'a mis les baguettes en main. Et donc, quand j'étais enceinte de Milo, dès le début de la grossesse, vu que je m'étais éclatée avec mes baguettes à discuter avec ma fille, à commencer à discuter avec d'autres bébés et tout ça, ça a été... comme un cadeau merveilleux que de pouvoir être enceinte et dès le début de la grossesse communiquer avec ce bébé qui arrivait. Et il a été vraiment on pourrait dire un guide d'éveil ou en tous les cas un booster intérieur, quelque chose comme ça, en venant à la fois me partager plein d'aspects sur autour de l'incarnation, mais aussi en venant pointer là où il y avait des belles zones d'ombre chez moi. Et donc, mon Dieu, je suis à grosses gouttes. à la fois, je vivais vraiment des grandes, grandes ouvertures, vraiment une expansion énorme. Et à la fois, par moments, tout ce qui venait de mettre en question, en mouvement à l'intérieur, j'étais fatiguée de ça. J'avais l'impression... il était pas mal connecté, Milo, à quelque chose un peu amérindien. Et donc, il venait fort avec une énergie de bison. Et je disais de temps en temps, mais c'est comme s'il me défonce les portes là, avec sa tête de bison. Et moi, à chaque fois, j'ai un petit tremblement de terre et ça me prend le temps de revenir dans mon axe pour intégrer en fait la transformation qui est en train de se faire. Et, Et du coup, à certains moments, j'étais vraiment très fatiguée. Mais avec lui aussi, j'ai appris, enfin, j'ai fait cette expérience du jumeau perdu en début de grossesse. Donc, je l'ai appris durant la grossesse et puis j'ai pu apprendre en fait de tout ce que ça raconte au niveau du tout début d'incarnation, de ce vécu de complétude, de pouvoir vraiment dire au revoir en fait à cette petite âme qui s'en va et du processus du tout petit qui arrive, mais aussi chez la maman en fait. Parce que souvent, ça passe inaperçu chez les mamans, mais généralement, il se passe quelque chose intérieurement. Si on est vraiment à l'écoute, il y a quelque chose qui se passe. Et on en a conscience pour la plupart du temps. Donc voilà, ça c'est la grossesse, donc avec toutes ces ouvertures, ces transcendances. Waouh, quoi. Un parcours initiatique avec Milo. Et puis, bah, le souhait, du coup, d'accoucher à domicile, où toute cette anomalie génétique qui avait été fort mise en avant durant ma première grossesse, mais en fait, c'est pas pointé durant la deuxième grossesse. Mmh. Au plus, j'allais profondément dans l'ouverture et au plus, tout ça a été vécu de manière tranquille, en fait. D'accord. Avec des périodes de repos, d'écoute... de travail à mon rythme, hein, puisqu'à cette époque-là, j'étais déjà indépendante. Voilà, vraiment une préparation tranquille pour cette naissance.
D'accord.
Et puis, bah, cette naissance, elle a eu lieu ici, dans mon bureau. Donc, cette pièce a vraiment été aménagée en pièce de naissance, avec un matelas au sol... J'avais la chance de pouvoir faire un blessing way avec des amis. Alors, pour la petite histoire, ce blessing way, il a pu être fait chez une de mes connaissances qui a un bassin thérapeutique chauffé à 40 degrés.
Wow. Choisis bien ses copines.
C'est ça. Cette copine, elle fait des tentes rouges, donc on était sur des coussins pour mon blessing way. Enfin bon, c'était vraiment un blessing way, un peu au paradis. Et toutes ces copines m'ont écrit en fait des messages boostants pour cet accouchement physiologique. Donc on a fait une guirlande ensemble qui a vraiment été très porteuse avec tous ces messages puissants des femmes. Qui pour la plupart n'avaient pas du tout accouché dans la physiologie, mais qui avaient conscience de ce que ça pouvait apporter dans cet empuissancement de la femme. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions en fin de nuit, je pense que vers 5 heures du matin. Et je n'ai pas réveillé mon compagnon. Il y a eu vraiment ce truc de « Ok, je vais entrer dans la danse des contractions seule. Je vais m'isoler. » Et on va y aller, mon bébé et moi, ensemble, tranquillement. Et puis, du coup, quand mon compagnon s'est réveillé, j'ai pu lui dire, ben voilà, on y est, c'est le jour J. Mm-hmm. Et j'étais très contente, en fait, finalement, qu'il ait pu se reposer. Pour mon premier accouchement, dès le début des contractions, je lui en avais parlé. Et du coup, il avait été réveillé en pleine nuit, il n'avait pas... pu avoir ses heures de sommeil, que pour le deuxième, il a vraiment pu être bien reposé. Et oui, c'est ce qui est important hein, quand même pour être là pleinement. Et puis du coup, j'ai été réveiller ma fille. Et a posteriori, ce que j'en ai compris, c'est que dans ce moment où j'ai été réveiller ma fille, j'ai un peu mis sur pause cet accouchement. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas complètement accompagné le bébé dans son mouvement de vie à lui. J'ai un peu fait, ok mon gars, là on met une petite pause.
J'ai la grande sœur.
Je m'occupe de ta sœur et puis je reviens vers toi. Bon, j'ai plus fait ça par la suite. Voilà, mais c'était important pour moi de savoir que ma fille allait partir avec son petit sac, son petit déjeuner et qu'elle soit complètement apaisée sur ce qui allait se passer. Et donc, une fois qu'elle était partie, hop, on y va, on plonge dans la danse. Et pour moi, l'accouchement, c'est vraiment une danse. Et je ne suis pas une femme qui vit l'accouchement dans la douleur. Après, je sais qu'on a toutes des vécus très, très différents. Et c'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs, aussi, dans cette nature humaine. Mais moi, l'accouchement, c'est une danse. Et de « ok, on y va ensemble, tac, 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 ouh !» Et ce qui est génial, je trouve, dans cette danse, c'est que tu sais que même si tu sens beaucoup de choses, tu sais qu'il va y avoir une fin et que la plupart du temps, cette fin est heureuse, que tu vas avoir cette immense récompense d'avoir un bébé dans les bras. Et donc, la concrétisation, quelque part, de toute cette période de grossesse où tu as fantasmé, où tu as imaginé, où tu as ressenti, où tu as vécu des choses profondes, bah, c'est un peu la consécration à ce moment de l'enfantement. Et donc, à nouveau, j'ai continué à faire ma petite danse toute seule. Alors, mon compagnon était tout prêt, mais il faisait ses trucs, tu vois, genre une petite vaisselle, préparer un truc ou l'autre, mais vraiment... Il me laissait faire, en fait. Jusqu'à un moment où je me souviens très fort de cette image. Il avait une assiette en main. Il terminait d'avoir dîné, comme on dit en Belgique. Donc, c'est déjeuner en France. Et je lui ai dit, maintenant, tu poses cette assiette et tu viens.
Ça y est.
Et alors, ça y est, ouais, c'est ça. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, je vais aller mettre l'assiette dans la vaisselle. Je fais, non, tu poses l'assiette.
Et là, tu te surprends à avoir une autorité naturelle que tu ne retrouves pas à d'autres moments.
Une fermeté, un truc, voilà, du feu de Dieu.
Une impériosité.
Et où il comprend, évidemment, ce moment-là, que tac, il faut y aller, quoi. Et puis là, une fois qu'il a été présent avec moi, il s'est rendu compte, il a dit, mais je crois qu'il est temps d'appeler la sage-femme. Et moi, je fais, non. On est tranquille, quoi. On avait prévenu, évidemment, la sage-femme que le travail s'était mis en route. Hein. Mais je fais, oh, pardon. Je lui dis, non, je pense que ça va, je gère. Et puis, il m'a dit, on appelle la sage-femme. Avec lui aussi, cet axe masculin bien mis. En fait, je ne me sens pas du tout d'accoucher ce bébé moi-même. On appelle la sage-femme. Et puis donc, la sage-femme est arrivée. On a fait ce travail, tu sais, de vibratoire, en fait, de rencontre vibratoire dans l'instant de « Ah oui, t'en es là, j'en suis là, ok, on en est là ensemble, yes. » Et donc, très rapidement, elle m'a dit « Écoute, je vais quand même examiner ton col. » Et je lui ai dit « Non, pas besoin. » Et puis, elle m'a vu accompagner plusieurs contractions. Elle m'a dit, je vais examiner ton col. Parce qu'elle elle travaillait avec une autre sage-femme qui allait arriver. Et il y avait besoin du temps que cette sage-femme vienne à domicile aussi. Et donc, en effet, cette sage-femme, elle est arrivée. Elle était avec sa famille quelque part. Et donc, elle a tout laissé pour pouvoir venir... pour cet accouchement à domicile. Et ce qui est très, très drôle pour l'anecdote, c'est quand elle a passé la porte du bureau ici, donc elle avait encore une odeur de parfum sur elle, parce qu'elle était quelque part avec sa famille, et c'était un parfum assez fort, de classique, je dirais. Et donc, elle est entrée dans la pièce et je lui ai dit, non, tu sors. Tu vois, à nouveau, avec ce truc impérieux à l'intérieur, une autorité qui dit, non, c'est pas possible, cette odeur, tu sors. Et l'autre sage-femme de la regarder et lui dire, écoute, j'ai un t-shirt propre dans ma valise, vas-y, va le chercher et puis reviens.
C'est ça. Non, mais c'est hyper important, ça peut paraître un détail, mais clairement oui, ça peut faire une différence. En tout cas, le fait d'être dans ton cocon, alors là t'as beau être chez toi, tout ce qui va être stimulation sensorielle différente, et l'odorat compte énormément, hein.
Ça dépend de la sensibilité de chacune. Moi, c'est
mais
clair
peu
que...
exactement,
ouais. En bonne sorcière, tu vois, j'ai un odorat hyper développé et évidemment, pendant la grossesse et l'accouchement, c'est décuplé. Voilà, c'était... Déjà, moi, aller dans un magasin de parfums, c'est impossible, tu vois, de manière générale. En accouchant, alors là, c'était impossible, vraiment. Et bien, en fait, une fois que la deuxième sage-femme était là, tout est allé très très vite. Je me souviens d'être debout avec d'un côté mon compagnon et d'un côté cette deuxième sage-femme. Et d'être debout dans cette puissance, je me souviens vraiment de la puissance profonde qu'on reçoit dans notre bas-ventre, particulièrement debout. Je trouve que debout, il y a vraiment ce truc de la femme incarnée, quoi. Les deux pieds sur la terre et qui va dans cette puissance énorme, cette force au-delà de tout, pour donner naissance. Et j'ai donné naissance finalement, enfin mon fils est né, parce que c'est plutôt lui qui s'est donné naissance que moi en fait. Moi j'étais un peu à quatre pattes en tous les cas, et j'étais d'ailleurs à quatre pattes avec les mains sur les cuisses de mon compagnon. Tu vois, il était mis devant moi, et la sage-femme était à l'arrière pour observer comment il sortait. Elle ne touchait pas, c'est une sage-femme qui ne touchait absolument pas au moment, tu vois, du passage. Certaines sages-femmes, elles vont, ça je le dis parce que ça peut être une information, certaines sages-femmes, elles vont masser, toucher, dîner, voilà. Il y a plusieurs pratiques. Oui, tu voulais dire?
En général, on parle des hands off, donc sans les mains en fait, quoi. C'est vraiment...
Ça dépend vraiment des pratiques, hein, parce que plein de sages-femmes, elles vont dire que le massage du périnée à ce moment-là, le soutien, aide. Et donc, voilà, moi en tous les cas, pour cette naissance-là, cette sage-femme-là, elle ne touchait pas. Et donc, Milou est sorti et j'ai eu cette chance de le voir arriver entre mes jambes et que son papa et moi, on soit à deux, vraiment à l'accueillir entre mes jambes, puisque on était vraiment bien mis pour ça, quoi. Et pour l'anecdote sympathique, donc ma fille Luna avait les cheveux très noirs et un petit mouchichi tout noir. Et on savait que Milo avait des cheveux aussi, on le voyait parfois à l'échographie. Et donc pour moi, il était clair qu'il allait avoir les cheveux noirs aussi. Et il avait des longs cheveux blonds, ce qui est extrêmement rare. Et donc, la sage-femme qui était déjà très, très expérimentée, elle n'en revenait pas. C'était son premier bébé avec des longs cheveux blonds.
Super.
Et ça, ça a été la grosse surprise dans la rencontre physique avec lui. Tu vois, le concret, ce passage, en fait, du bébé imaginaire au bébé réel. Hein. Et ce passage-là, de le voir concrètement dans ce physique-là, c'était vraiment très, très étonnant. Voilà. Et en fait, et c'est peut-être ça l'expérience que j'ai la plus envie de partager, c'est durant cette naissance, pour moi, tous les niveaux de conscience se sont ouverts. Et la grossesse m'avait bien préparée à ça. Et le moment de la naissance a vraiment été la consécration. Et donc, j'ai vraiment vu tous les êtres de lumière qui étaient là au moment de la naissance, tout cet accompagnement global du vivant, en fait, présent autour des naissances. Et en t'en parlant encore aujourd'hui, j'ai des frissons d'avoir pu voir et connecter, en fait, tout ce qui se passe à un niveau subtil au moment de la naissance. Et ma sage-femme, qui était assez sensible à ça aussi, a été complètement émerveillée de ça, parce que particulièrement durant cet accouchement, elle y a eu accès aussi. Et donc les deux sages-femmes, elles ont vraiment dit plusieurs fois par la suite que ça avait été un moment magique, comme elles n'en ont jamais vécu, en fait, de vraiment cette ouverture, quoi. Et à nouveau, pour la petite histoire, mon petit chat super mignon, là, il était tellement dans les étoiles que Tété, il ne voyait pas trop l'intérêt. Et donc, d'une histoire d'allaitement hyper fluide pour la première, je me retrouvais avec un bébé qui était là, mais qui ne voyait pas trop l'utilité de Tété. Et puis là, j'ai compris en fait que maman Céline, elle avait quelque chose à partager aux bébés aussi dans leur tout début d'incarnation et dans le fait de les accompagner à arriver dans le corps. et de venir vraiment l'habiter. Et donc, j'ai passé, je pense, à peu près 10 jours en méditation avec mon petit bonhomme au sein. Et la sage-femme qui venait, qui prenait, tu sais, au début, elle pèse quand même beaucoup les bébés pour voir où on en est, comment ça se passe. Et c'est nécessaire hein, de voir comment évolue ce bébé. Et il ne prenait pas de poids, mais elle me disait, ok, je te fais confiance. Je vous vois dans une sérénité, dans une bulle hyper rare, et donc je te fais confiance. Et ça, j'ai passé ces 10 premiers jours de postpartum, vraiment... Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais tout le temps en méditation, mais j'en sais rien en fait. Parce que, tu sais, notre cerveau, il se raconte des histoires souvent hein, au propos de nos expériences. Mm-hmm. Mais honnêtement, je me souviens que j'étais énormément en méditation avec lui au sein, en lui disant, mais en fait, je ne vais pas te proposer de biberon, je ne vais rien te proposer d'autre, et tu vas t'aider, et tu vas arriver dans ce corps, mm-hmm. et je suis là avec toi. Et je suis là dans un lien profond d'amour, et merci d'être là parmi nous. Et tu vas vraiment venir. Tu vois, à nouveau avec cette forme d'autorité. Et puis, en fait, il a tété et c'est devenu un bébé glouton. Hein, qui a très vite eu des bonnes grosses joues où il n'y a pas eu d'inquiétude outre mesure.
C'est vrai que de manière physiologique, en fait, les bébés peuvent perdre du poids sur les premiers jours et reprendre petit à petit. Alors, en général, jusqu'à 10% de perte de poids maximum. Après, ça inquiète un petit peu et ça peut prendre, on va dire, 1-2 semaines pour reprendre son poids de naissance, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais, je parle de 10 jours en tous les cas avant qu'il se mette vraiment bien à téter. Ouais. Et surtout d'avoir la chance, tu vois, d'avoir une sage-femme
qui te fait confiance, qui vous fait confiance.
Qui fait confiance, ouais. Et qui laisse faire, vraiment.
Ouais, oui.
J'ai pas souhaité qu'il y ait un contrôle extérieur. Tu sais, en Belgique, on a ce qu'on appelle l'ONE, l'Office National de la Naissance, de l'Enfance, pardon, qui peut vraiment venir à domicile. Et moi, je ne souhaitais pas du tout avoir ce type d'accompagnement. Je voulais vraiment rester avec ma sage-femme dans ce lien privilégié et ouais, dans cette conscience, en fait. Mm-hmm. Et peut-être une petite histoire qui peut être racontée aussi, c'est la manière dont... elle a fait le test de Guthrie, tu vois. Mmh. Puis elle le fait vraiment après que le bébé ait tété, qu'il soit complètement apaisé, détendu. Et puis on chauffe la main avec une petite bouillotte et on vient prélever un peu de sang. Mmh. Et donc, le bébé, il dort. Il dort et il n'y a pas de manipulation. Voilà. Mmh. Il y a vraiment beaucoup de douceur, en fait, dans cette manière d'accompagner le bébé. Et qui me convenait vraiment bien. Voilà la naissance de Milo. Et du coup, aussi avec cette ouverture de conscience qui s'est passée, j'ai vécu un postpartum béni des dieux, quoi. Tu vois, vraiment, tout qui est fluide, facile... Des gens qui me contactaient pour m'offrir des soins. vraiment. Après, j'avais préparé certaines choses, évidemment. Hein, mm-hmm. J'avais demandé qu'on m'apporte des plats, j'avais demandé très peu de visites et ce genre de choses. Vraiment pour pouvoir vivre pleinement notre processus ensemble, en famille, quoi, à quatre. Et oui, ce postpartum. Il était génial. Il y a des rituels qui me sont venus spontanément, mmh. Notamment d'enterrer le placenta. On a un grand cerisier dans le jardin, un énorme cerisier. Et puis, c'est venu, en fait, de l'enterrer, de prendre le tambour et d'accompagner aussi ce début d'incarnation de cette manière-là. Mmh. Mais tu vois, c'était pas préparé, réfléchi, c'est ça qu'on doit faire. C'était vraiment... du spontané, c'est ça qui est là, donc c'est ça qu'on fait.
C'est beau comme ça, je trouve.
Ouais, mmh. Ouais.
La simplicité aussi, quoi.
Ouais, ouais. Extrêmement simple.
Souvent, j'ai l'impression que quand on met des grandes attentes, quand on sait exactement ce qu'on veut, comme on veut, de manière assez rigide, j'ai envie de dire, ça laisse plus de place à la déception si ça se passe pas exactement comme prévu. Alors que là, finalement, tu laisses venir, puis tu en fais quelque chose de beau. Et...
Oui, de beau, de simple. Moi, avec mon tambour, le papa qui, pourtant, n'avait jamais pris de tambour, ben, c'est venu pour lui de prendre un tambour. Et la grande sœur qui, elle, a pris un petit tambour, un jeu, quoi, tu vois. Et tout le monde qui était là, autour de ce bébé, devant ce cerisier, mais tu vois, de manière hyper simple, quoi. De manière organique, en fait. C'est surtout ça, moi, j'aime bien cette expression de dire, mais... Laissez-vous vivre ce qui vient de manière organique. Il n'y a rien à faire, ça va venir si ça doit venir, et puis si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et puis, si je continue dans le décours du temps, donc j'allaitais, full time, Milo était gardé à la crèche, je pense, à peu près un mi-temps. Il allait à la crèche, moi j'avais repris un peu mes accompagnements en mode soft. Et puis, oui, ce que je n'ai pas expliqué quand même, durant la grossesse de Milo, j'ai complètement changé mon alimentation. C'est vraiment venu de manger des légumes, plus de viande, de limiter le gluten, ce genre de choses. Si bien que ma forme physique a changé durant la grossesse et que dans le postpartum, j'ai très vite repris, j'ai même été plus mince qu'avant la grossesse, parce que j'avais complètement changé de mode de vie. Et puis, quand mon troisième petit est venu se loger dans mon ventre, au départ, donc en fait, moi, je perçois quand les âmes viennent autour des parents et sont présentes. Et pour mon troisième bébé, eh ben, je n'ai rien vu venir.
Puis, du coup, tes garçons ont très peu, enfin, ils ont un an d'écart, plus ou moins.
15 mois, oui.
15 mois, oui.
Donc. 16 mois, oui. Ah, ouais. 15 mois. Oui, oui. Oui. Et tu vois, ça aussi a été une expérience de cadeau. De dire, eh ben oui, celui-là, tu l'as pas vu venir. Et en fait, intérieurement, dans cette époque-là, et ça, je le partage parce que je sais que plein de femmes le vivent et qu'elles n'osent pas forcément se l'avouer ou le partager. Moi, dans cette époque-là, je me disais, ben finalement, une famille avec deux enfants, c'est peut-être bien. On commence peut-être à être au complet. Et donc, tout doucement, intérieurement, c'est comme si la porte de la naissance et de la maternité était en train de se refermer, ce qui n'était pas du tout le cas chez le papa. Et donc, mon petit troisième, il est vraiment venu se loger à ce moment-là où il y avait comme un petit doute, tu vois, de tiens, est-ce que deux, c'est bien ou pas. Et il a foncé. Et dans son tempérament et dans la manière dont il est né, ben, c'est clair que c'est un bon fonceur. Eh bien, j'étais en début de grossesse sans le savoir, puisque j'allaitais. Donc, j'avais eu un retour de couche qui n'avait pas été très clair. Donc, ça aussi, c'est hyper fréquent. Hein. On a plein d'expériences, l'une et l'autre, j'imagine, de ce type-là. Une légère perte de sang qui n'est pas vraiment intégrée comme étant, tiens, c'est un retour de couche. Et donc, la fertilité qui revient. Et donc, comme on avait repris une vie sexuelle assez rapidement après la naissance, je suis tombée très vite enceinte. Et les signes pour ce début de grossesse, ça a été justement, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de manger de la viande. J'ai envie de gluten. Tu sais, je mangeais du pain des fleurs pour déjeuner, ou tu vois, des petites cracottes toutes légères et tout ça. Et à ce moment-là, ça faisait, non, mais je veux une tartine. J'ai besoin de quelque chose de costaud. Ce qui est vraiment génial, c'est de voir aussi ben, comme ces enfants, dans leur vibration très différente, avaient des besoins différents. Et comme mon corps s'est adapté quelque part à leurs besoins. Et donc, autant pendant la grossesse de Milo, j'étais fruits, légumes, en méditation. enfin, voilà. Autant pendant la grossesse de Luis, le troisième, je sentais que ouais, j'avais besoin de viande, j'avais besoin de choses plus costauds. Il y avait comme un besoin de plus de densité. C'était pas un moment pour moi de complètement m'évaporer, d'être en expansion complète non-stop. C'était non, boum. Celui-là, il a besoin d'une mère avec les deux pieds sur la terre et t'y vas, quoi. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses à nouveau durant cette grossesse. Et aujourd'hui, je me souviens aussi d'un vécu de solitude parce que il y avait peu de femmes autour de moi qui vivaient les choses de la même manière. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai à cœur de créer des cercles, beaucoup de cercles de femmes, de mamans, de femmes enceintes, vraiment pour pouvoir être dans ce partage de quoi que tu vis, je t'accueille dans ce que tu es en train de vivre. Mmh. Et du coup, ouais, cette grossesse, elle a été un peu particulière, à la fois avec des ouvertures, mais aussi j'ai été très bouleversée par le fait que ce petit-là me disait « Maman, tu lâches tes baguettes et on ne va pas causer ensemble. » Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as les informations qui te viennent de manière directe. Et donc, tu lâches tout ça. Et on est là, ensemble, et on ne fait qu'un. Et donc, aujourd'hui, évidemment, à nouveau, je le vois comme un cadeau merveilleux parce qu'il a à nouveau balayé toutes sortes de concepts qui s'étaient mis en place. Il n'y a rien à faire. On est comme ça, notre nature humaine. Elle lâche plein de choses et puis elle recrée des choses et puis elle les lâche et puis elle les... Et voilà, et on fonctionne tous comme ça.
L'adaptation permanente.
Voilà, c'est ça le vivant, hein, non ? Et donc, évidemment, pour cette naissance-là, bah, il était aussi naturel que ça se passe à la maison. C'était simple pour nous, c'était ça qui était là. Pour l'anecdote, mais je sais aussi qu'elle peut faire écho chez d'autres mamans qui ont vécu ce genre de choses. Quand j'ai appelé ma sage-femme pour lui dire, donc la sage-femme qui nous avait accompagnés pour la deuxième naissance, je lui ai dit « Tiens, j'ai une nouvelle pour toi !» Elle m'a dit « Ah non, non !» Et en fait, dans ma région, à cette époque-là, les sages-femmes étaient en burn-out. Il y avait une petite équipe en place, mais qui n'était plus disponible. Et elles étaient de plus en plus à se dire « Aïe, 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 comment on va faire pour continuer les accouchements à domicile ou accompagnés à l'hôpital ?» S'il n'y a plus personne de disponible. Quoi. Et donc, elle a vraiment pris cette naissance, la sage-femme, comme un « Ah, merde, qu'est-ce qu'on va faire avec elle ?» Et c'est super parce que du coup, ça m'a donné l'occasion de rencontrer une autre sage-femme qui venait de plus loin et qui est flamande et qui a eu 10 enfants.
Comment ça causait 10 enfants quand même ? On est dans un step, dans un level famille vraiment nombreuse. Quoi.
Exactement. Et comme j'étais dans ce passage à la famille nombreuse, eh ben c'était très juste en fait que ce soit cette nouvelle sage-femme qui se propose d'être là. Parce que bah, j'avais un peu de peur, tu sais, par rapport à ce troisième enfant en 4 ans qui arrivait. Je me disais, waouh, au niveau de mon corps, au niveau de la gestion, au niveau de tout, comment je vais faire ? Et très vite, enfin, je pense que la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Bon, tu sais, franchement, pour moi, c'est le passage de 3 à 4 qui a été le plus chaud. Mais sinon, le reste, tranquille.
» Ok, intéressant.
J'ai adoré en fait ce témoignage parce que mon mémoire de fin d'études, donc j'ai fait des études de psychologie, moi, et mon mémoire de fin d'études, c'était justement sur l'arrivée d'un deuxième enfant dans une famille.
Ah, excellent.
Moi, je suis deuxième dans ma famille d'origine. Et donc, j'avais déjà pas mal investigué ces questions de que vivent les femmes au moment de l'arrivée d'un enfant. Et ce que je remarque, c'est vraiment des expériences qui peuvent être complètement différentes. Et donc, ben, cette femme... Et c'est ça aussi qui a été super dans ces trois naissances, c'est d'avoir vraiment des sages-femmes très différentes, avec des sensibilités, des ouvertures, des vécus très différents. C'était à chaque fois une vibration différente, du coup, qui répondait à ce dont j'avais besoin, en fait. Et dans cette troisième naissance, j'avais besoin de sentir la puissance. Et j'avais face à moi une sage-femme, waouh, elle prenait pas de gants mais elle était dans sa puissance. Donc, à la fois avec quelque chose de très doux et très ferme. Sans chipi, tu vois, bam, 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 clair. Quoi. Et c'est super parce qu'elle a ouvert, elle a permis d'ouvrir d'autres espaces en moi qui ont bien été nécessaires dans le postpartum avec mes trois enfants. Du coup, dans le partage avec elle, c'était vraiment de lui dire, mais nous, pour cette troisième naissance, c'est vraiment nous qui accouchons. Et toi, tu es là au cas où. Tu es là si besoin, en fait. Et elle était vraiment OK avec ça. Et donc, elle travaillait seule. Et bien, j'ai eu la joie de vivre, d'avoir un bébé post-terme. Tu sais, comme si dans ce parcours de naissance, à chaque fois, j'ai eu un peu tous les cas de figure pour chacune des naissances et je sais aujourd'hui combien, bah, dans l'expérience de Céline, c'était important d'avoir tous ces cas de figure pour le vivre à nouveau à l'intérieur. Ce truc de qu'est-ce qui fait que ce bébé n'arrive pas ? Pourquoi il ne se décide pas ? On est prêt, tout est prêt, tout est fluide. Et en plus, moi, tu vois, déjà à l'époque, j'accompagnais les bébés post-terme à se décider dans l'incarnation et donc de se dire, mais qu'est-ce qui fait que lui, il n'y va pas, quoi. C'était vraiment génial à vivre, vraiment, c'était très, très beau. Et donc, je te raconte la naissance à nouveau, je vais plus ou moins dans le détail. Donc, nous sommes allés, j'ai senti que c'était prêt à arriver, mais à la fois, rien ne se mettait en place concrètement, ok. Donc, c'est aussi ça, hein, ce que beaucoup de femmes peuvent décrire. On sent que c'est là, mais à la fois, il n'y a pas encore un signe clinique quelque part qui dit qu'on y va. Okay. Et donc, on est allé rechercher Milo à la crèche à pied, dans l'idée OK, on se met en mouvement, c'est joyeux pour nous, on y va. Et donc, je me souviens de la tête des puricultrices quand elles m'ont vu arriver à pied, parce qu'elles savaient que la date du terme était dépassée. Vous êtes folle. Déjà, vous accouchez à domicile, mais en plus...
Tu es loin de la crèche ?
Il y avait un bon quart d'heure à pied, donc ça allait, c'est pas énorme, mais voilà, pour elles, c'était beaucoup. Et puis, rentrer à la maison... toujours rien au niveau clinique qui se met en route. Et donc, ok, allons chercher Luna à l'école, en voiture cette fois quand même. Et on va en profiter pour aller à l'épicerie bio, faire quelques courses comme ça. Notre frigo sera bien plein pour la naissance du bébé. Donc, très joyeusement, nous sommes allés à l'école et puis faire des courses en famille. Ce qui me fait rire aujourd'hui, tu vois, parce que c'est quand même juste avant d'accoucher, aller faire des courses. Bon, c'est une épicerie bio, c'est pas un gros supermarché, mais enfin, quand même, quoi, en famille, on va faire nos courses. J'ai la sage-femme au téléphone qui me dit, écoute, je suis pas très loin de chez toi, je vais quand même passer pour voir comment ça se met en route ou pas, et puis voilà. Et donc, on rentre à la maison, la sage-femme passe, et... Elle m'ausculte et elle me dit « Ah ouais, il n'y a rien qui se met en place. Tranquille, voilà. Tu t'es bien activée aujourd'hui, c'est chouette, mais tranquille. » quoi. Et pour ce troisième enfant, on avait prévu d'accoucher dans une piscine gonflable dans le salon. Et donc, elle nous avait fourni la piscine hein, qui était déjà chez nous depuis une semaine ou deux. Et puis mon compagnon est allé la raccompagner à la porte et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle lui a dit « Il va venir très vite. Donc, tu gonfles la piscine. » Et mon compagnon, tu vois, c'est le genre d'homme cool, tranquille, on a toujours le temps. Et donc, en fait, après le toucher de la sage-femme, les choses ont commencé franchement à s'activer. Et donc, j'étais en train de préparer le repas pour mes petits, avec ces contractions qui arrivaient, mais à nouveau, j'étais dans une danse joyeuse, quoi, tu vois, yes, c'est pour aujourd'hui, ça y est, on est parti, je suis en train de faire à manger, mais vraiment dans quelque chose de très simple, de très spontané, facile. Et puis, on a... rapidement senti qu'il fallait aller mettre les enfants au lit. Alors, il n'était pas du tout prévu que les enfants restent à la maison pour cet accouchement. Moi, j'avais envie d'être plutôt seule avec mon compagnon pour la naissance. Mais voilà, notre fille nous avait dit « Maman, je serai là, je serai dans mon lit et quand je me réveillerai le lendemain matin, le bébé sera là. » Et je lui avais dit « Non, ma chérie, tu iras chez mamie hein, pour la naissance. » Elle m'avait dit « Non, non, je serai dans mon lit. » Bon, elle avait raison. Et je suis allée en fait la mettre dans son lit. Donc il y a deux étages pour arriver jusqu'à sa chambre. Donc t'imagines, accompagnant mes contractions, j'ai monté les deux étages là. Et puis je lui lisais une histoire et à un moment j'ai senti que j'avais plus du tout la patience de l'accompagner. Donc j'ai appelé son papa en lui disant tu as 7 minutes pour la mettre au lit. L'autre dort déjà. Et après, tu me gonfles cette fichue piscine mais vite fait, quoi. Et donc, je suis redescendue et en effet, là, le travail avait bien pris crescendo. Et donc, on a appelé la sage-femme qui, heureusement, n'était pas partie trop loin. Ayant bien senti l'histoire, elle n'était pas partie trop loin. Enfin, je dis heureusement, je pense qu'on aurait pu accoucher sans elle, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est mis pour nous. Et donc, j'étais en mantra à ce moment-là, en train de chanter. Et vraiment en plongeant visuellement avec des aigles qui s'envolaient. Et c'était pas inintéressant sur mon gros ballon d'être là-dedans parce qu'à côté de moi, il y avait un compresseur qui gonflait la piscine et qui faisait trembler toute la maison parce qu'un compresseur, c'est quand même costaud.
Oui, carrément. Les petits trucs techniques auxquels tu ne penses pas forcément avant.
Exactement. Donc ça aussi, je le dis pour celles qui voudraient accoucher dans une piscine, vous pouvez la gonfler avant. Ça peut être sympa aussi. Et d'ailleurs, comme dans plein d'histoires de naissance qu'on connaît, toi et moi, les enfants, donc il y a eu un bruit incroyable dans la maison, mais les enfants dormaient royalement, quoi. On leur avait demandé de nous laisser tranquilles et ils nous ont laissés complètement tranquilles. Et donc, la sage-femme est arrivée quand le travail était déjà presque à son terme. Donc, elle avait une jolie robe à fleurs qu'elle a gardée. Tu sais, une jolie robe à fleurs toute droite, pas du tout confortable pour prendre n'importe quelle position. Et surtout, on n'a pas eu l'occasion de remplir complètement la piscine. Donc, y avait un fond d'eau et vraiment, quand lui a pointé sa tête, la sage-femme était encore en train de mettre une casserole d'eau chaude entre les jambes parce qu'il n'y avait plus assez d'eau chaude et bref, on était un peu calés par rapport à ça. Mm-hmm. Et donc, ce petit bonhomme, il est arrivé en 2 heures. Mm-hmm. Un bon troisième qui a foncé. On a tracé ensemble, en fait. C'était vraiment très, très intense. Comme naissance. Et son papa était dans l'eau avec moi, et donc c'est vraiment lui qui l'a accueilli et qui est venu le déposer sur ma poitrine pour cette rencontre à trois. Et d'ailleurs, j'ai une photo de ce moment, de notre rencontre à trois, et j'adore cette photo parce qu'il y a, tu sais, cette puissance dans les yeux qui est là. Puissance de la femme qui enfante et qui est gonflée à l'ocytocine et qui est waouh dans ce bain merveilleux quoi. Et donc voilà, ça c'était la naissance de notre petit numéro 3. Après ça, en fait, j'ai passé je pense 1h30 ou 2h le corps tremblant dans le divan. On venait de s'offrir un magnifique divan avec des plumes parce que je voulais allaiter dans quelque chose de très confortable et du coup, on venait de se jeter ce très beau divan où, en fait, j'ai vraiment tremblé pendant 1h30 à 2h de l'intensité de cette personne. C'était vraiment, waouh, un plongeon dans l'absolu, mais de manière très, 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 très intense. Et donc, le corps a vraiment dû se remettre de cette expérience. Après, ça s'est très vite remis, mais dans l'instant T, il a fallu un moment de « ouh, on laisse redescendre ». Et pour avoir accompagné plusieurs femmes qui ont pu vivre comme ça des naissances très rapides, c'est vrai que le corps, quelque part, qui s'ouvre très rapidement, de manière très intense, eh bien, c'est important de pouvoir intégrer cette expérience intérieure. Et pour certaines femmes, ça prend du temps d'intégrer cette intensité dans leur puissance. Voilà la naissance de Luis.
C'est magique combien c'est différent à chaque fois. Et moi, ce qui me touche vraiment dans ton récit, c'est d'entendre combien tu avais des croyances qui ont été à chaque fois chamboulées par tes enfants, qui ont été remises en question. Et c'est beau de voir combien ils arrivent vraiment à nous faire sortir un petit peu des schémas qu'on se met, tu vois, qu'on a tendance à se dire, tiens, les choses sont comme ça et tout. Et en fait, non, tout est muable, tout peut bouger, tout peut changer. Et comme tu le disais, c'est ça la vie, c'est l'équilibre c'est pas quelque chose de constant et les besoins changent, ils vont vraiment être fluctuants d'une naissance à l'autre, d'une maman à l'autre, d'un bébé à l'autre, d'un moment à l'autre. Enfin, voilà, c'est chouette d'entendre ça. C'est beau.
Ouais. Oui, et bah, je suppose que tu l'expérimentes aussi dans ta vie de famille, combien en fait cette adaptation, elle est constante, et cet équilibre et cette harmonie tous ensemble, eh bien, elle se recrée non-stop en fait. Et ça, j'ai vraiment à cœur de le partager dans mes accompagnements, parce que c'est... Il n'y a pas quelque chose d'immuable et d'arrêté. Ça n'existe pas, ça ne serait pas vivant, en fait, de faire ça, de fonctionner comme ça. Le vivant, ben oui, il est en mouvement. Par contre, on peut toucher et goûter à ce qui ne bouge pas à l'intérieur, à ce qui est stable et tranquille. Et ça, ben oui, c'est moi ce qui me passionne au quotidien.
Chouette. Super, ben écoute, ça fait un petit moment, du coup, qu'on papote. Donc, s'il y a un petit message que tu as envie de faire, de passer...
Pour moi, la grossesse, l'accouchement et l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment une occasion pour la femme de se révéler et de se laisser être révélée. Et j'invite vraiment toutes les femmes à rencontrer leurs peurs et à les transcender pour pouvoir s'ouvrir, ouvrir toujours plus grand. Et du coup, se laisser incarner ce qu'elles sont dans la matière. Et c'est une tellement belle porte. Voilà, prenez-la, quoi. Prenez-la.
Super. Ben, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi. Et puis, merci à ton bébé qui, du coup, a bien dormi.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez participer financièrement via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. On se retrouve la semaine prochaine. Je me permets de lancer un appel. Je ne fais pas la démarche de contacter moi-même des personnes afin de venir témoigner ici. J'aime que ce soit un élan naturel de ces merveilleuses personnes qui se présentent. Toutefois, j'aimerais que ce podcast puisse être le reflet de la parole et des histoires de l'ensemble de l'humanité. Aussi, j'invite les personnes de tout horizon, les personnes queer, les personnes racisées, qui le souhaitent à venir me contacter si l'idée de venir témoigner ici les tente. Le monde a besoin d'entendre vos histoires, elles sont précieuses, telles qu'elles sont. Vous pouvez me contacter par mail via mamandalune@gmail.com. Merci.